Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour le 11e épisode d'Herminie L, intitulé « Le spectacle de Noël », où tout devrait se dérouler le plus merveilleusement du monde. Ou pas. Belle écoute. Comme chaque année, la classe de Mademoiselle Virginie préparait son spectacle. Une fois de plus, on opta pour le thème de la crèche vivante. Une fois de plus, les mêmes voix contre s'élevèrent parmi les parents d'élèves. L'école était une institution laïque, non d'une pipe. L'habituel bras de fer s'engagea et pencha, sans surprise, en faveur de la paroisse. Noël, c'est Noël quand même. Et, une fois de plus, la question de la distribution des rôles s'avéra épineuse. Mademoiselle Virginie connut quelques moments de grand découragement. Bénédicte, promue étoile du berger, ne décolérait pas. Herminie tiendrait le rôle de la Sainte Vierge. Charles de Haute-Esclandre, selon la tradition, incarnerait Joseph. Évelyne se montra intransigeante. Elle serait un des trois rois mages ou rien. On choisit Patrick et Lionel pour figurer les deux autres. Le petit Pierre fondit en larmes, car il ne voulait pas être rémouleur. Lui, il voulait être pirate. Mademoiselle Virginie tenta de lui expliquer qu'il n'existait pas de pirate dans la crèche, ce à quoi Pierre lui rétorqua qu'elle n'en savait rien, qu'elle n'était même pas là. Il écopa d'une retenue et fut rétrogradé au rang de berger. On lui colla la grande Sandrine comme bergère. Elle voulait bien être une bergère, mais elle mettrait sa mini-jupe imitation cuir verte motif crocodile. Non, les bergères ne s'habillaient pas comme ça, s'offusqua Mademoiselle Virginie. Si chacun n'en faisait qu'à sa tête, on n'arriverait à rien. Les jumelles d'angle insistèrent pour porter leurs baguettes magiques récemment achetées par Madame Combe chez Barniol. Elles seraient les fées de la crèche. Une fois de plus, Mademoiselle Virginie expliqua que non, il n'y avait pas de fées dans la crèche. Les petites, à cette nouvelle, fondirent en larmes. Mademoiselle Virginie se fâcha. Il ne faut pas tout mélanger. Les contes de fées sont des histoires pour faire peur aux enfants désobéissants. L'histoire du petit Jésus n'est pas un conte de fées, c'est une histoire vraie. Il n'y a qu'à lire les évangiles pour s'en rendre compte. Les larmes des petites d'angle redoublèrent. Corinne aussi boudait. Elle voulait être la bergère si et seulement si Lionel était son berger. Ça n'en finirait donc jamais. Mademoiselle Virginie, Sœur Marie-Ange, Rose et quelques autres s'attelèrent à la décoration de la salle communale. Le traditionnel sapin haut de 2 mètres trônait fièrement. Depuis 2 ans, on avait banni les bougies au profit des guirlandes électriques, plus sécuritaires mais délicates à manier. Mademoiselle Virginie, la plus leste de ces dames, fut chargée de grimper sur le tabouret pour accrocher la grande étoile à la cime de l'arbre. Sur la scène improvisée, des bâches blanches tendues sur des bâtons de bois figuraient la crèche. En son milieu, sur le lit de paille, gisait le poupon sacré. Tant bien que mal, les enfants, au comble de l'énervement, peaufinèrent ensuite la décoration des lieux. Mademoiselle Virginie, à qui on ne manqua pas de poser la question, justifia le choix d'Herminie dans le rôle de Marie en vertu des épreuves subies par la fillette. Cécile Cassot, durant cette période, brilla par son absence et devint sans surprise le sujet de conversation favori de ces dames. On espérait de Rose quelques éclaircissements, mais celle-ci put ou ne voulut fournir aucune explication. On comblait donc les vides par des suppositions. Et là, il y avait matière à réflexion et à réjouissance. On envisagea les hypothèses les plus farfelues. Chaque guirlande posée entraînant une nouvelle exploration de la situation. Mademoiselle Virginie, bien que ne participant en rien à ces élucubrations, ne décolérait pas. L'attitude de Madame Cassot évoquait ni plus ni moins qu'une désertion, un abandon de poste. Certes, la petite Herminie n'était pas des plus faciles, mais ce n'était tout de même pas un monstre. Qu'est-ce qui lui avait pris à Madame Cassot d'aller se terrer chez sa mère en laissant tout seul son époux et la gamine? Ça se voyait qu'il n'était pas à l'aise avec cette histoire, le maire. Bien sûr, si on avait pu, on l'aurait soulagé. Mais toutes les bonnes volontés avait déjà la charge des autres demoiselles. C'est le rôle de la communauté que de partager les tâches. Et puis, la petite Herminie semblait assez étrange ces derniers temps. Plus obéissante, plus malléable, plus vraiment la même, quoi. Du côté des enfants, Charles de Haute-Esclandre restait partagé entre le plaisir de jouer le rôle principal dans cette affaire et celui d'être, pour une soirée, le mari d'Herminie, elle. Ses camarades, du reste, ne lui épargnaient pas les sarcasmes. Quelques coups de poing atteignirent quelques nez. Bénédicte, persuadée jusqu'à la dernière minute d'incarner la Vierge Marie, ne se priva pas d'infliger à Herminie toutes sortes de déconvenues et vexations. De l'encre renversée sur un cahier de classe, une trousse remplie de produits à vaisselle, des affaires de gym introuvables, l'inspiration ne manquait pas. Mademoiselle Virginie, à laquelle on prêtait un joli filet de voix, fit tant bien que mal répéter les cantiques qui accompagneraient la scène. Douce nuit en introduction, suivie par les anges dans nos campagnes, et au final, il est né le divin enfant. Personne n'avait voulu jouer l'âne, et personne non plus ne se sentit bœuf. Les deux places demeurèrent vacantes. À la hâte, à l'aide de cartons peints et de papier crépon, on édifia donc les deux bestiaux. Le résultat s'avéra assez surprenant. L'âne présentait de longues dents qui lui conféraient l'air carnivore d'un loup, et le bœuf affichait l'allure inquiétante d'un vieux grizzly. Le grand soir, la salle communale fut rapidement remplie. Chacun put remarquer M. Cassot et Madame assis côte à côte et qui ne semblaient nullement en froid. Chacun s'interrogea sur cette étrange attitude et tira ses propres conclusions. Dans l'ensemble, malgré quelques couacs et bousculades, le spectacle se déroula bien. Des flashs ponctuaient les différentes scènes. Chaque année, il convenait d'immortaliser le moment. Agenouillés de part et d'autre de l'enfant Jésus, Charles et Herminie se lançaient des regards furtifs. Vêtus de bleu pâle et de blanc, un long voile dissimulant sa chevelure de jais, mains jointes, Herminie incarnait la Sainte Vierge à la perfection. Si Mademoiselle Virginie avait connu quelques doutes au moment de la distribution des rôles, elle s'en félicita. On aurait pu rêver meilleur choix. L'ovale parfait du visage d'Herminie, son attitude humble tout en retenue, cadrait parfaitement avec le personnage. Charles de Haute-Esclandre, dont la silhouette s'était étoffée durant l'été, incarnait un Joseph protecteur. S'il n'avait pas, au cours des répétitions, montré un grand enthousiasme quant au choix de sa partenaire, il semblait que la magie de Noël opérât sur les cœurs. Au vu d'Herminie, si sage, si humble, il dut bien l'admettre aussi jolie, Charles sentit un bizarre pincement au cœur. De temps à autre, il l'observait, et lorsque leurs regards se croisaient, voici qu'il rougissait, bêtement. C'était sans doute les cantiques, la solennité de l'instant. Il ne subsistait rien de ce trouble à l'issue de la représentation. Pourtant, tandis que les parents félicitaient leur progéniture et qu'on distribuait les friandises, ce trouble persista. Charles ne pouvait s'empêcher de chercher Herminie du regard. Ses compagnons habituels s'agitaient autour de lui en se gavant de chocolat et de pâtes de fruits. Mais pour Charles, le cœur n'y était pas. D'autant qu'Herminie, seule, avec son verre de jus d'orange, dans un coin de la salle, ne semblait pas particulièrement joyeuse. Mais quelle raison aurait-elle eu de l'être? Personne ici ne tenait spécialement à la fillette. Elle demeurait l'étrangère, la miraculée. De plus, on commençait de chuchoter que Madame Cassot en avait eu assez d'elle, qu'elle ne supportait plus sa présence, qu'elle avait tenté de s'en débarrasser et qu'aucune famille n'en voulait. Il se murmurait également que Monsieur Cassot n'était pas particulièrement gentil avec la fillette. On ne savait pas exactement ce qu'il se passait, mais pour sûr, il se passait quelque chose. Charles eut la tentation de rejoindre Herminie, mais ses copains n'auraient pas compris. Ils maudissent sa lâcheté mais ne trouva pas le moyen de faire autrement. D'ailleurs, un curieux événement se produisit. Il sembla que M. Cassot s'était approché d'Herminie pour la féliciter. Lorsqu'il fut près d'elle, la fillette ouvrit de grands yeux terrorisés et courut se réfugier dans les jupes de sœur Marie-Ange. Justin Cassot, son verre de vin chaud à la main, resta comme pétrifié. Mais qu'est-ce qui lui prenait à cette gamine? Les mouvements de recul d'Herminie n'avaient pas échappé aux adultes en présence. Sur le moment, nul n'osa une réflexion. Sœur Marie-Ange entraîna la fillette à l'autre bout de la salle. « Qu'est-ce qu'il y a, ma petite ? » interrogea-t-elle doucement. Herminie leva vers la religieuse de grands yeux emplis de larmes. Elle assura qu'il ne se passait rien, qu'elle avait eu le trac pour le spectacle, mais que maintenant tout allait pour le mieux. Au moment de partir, Justin chercha Herminie. Il ne pouvait se résoudre à la laisser rentrer seule. Il redoutait sa réaction, mais, à sa grande surprise, la fillette enfila son manteau et lui emboîta le pas sans difficulté. Ils ne marchaient cependant pas côte à côte. Derrière Justin, Herminie traînait le pas. Il ralentissait pour être à sa hauteur, mais cet exercice s'avérait compliqué. Il tenta même quelques questions. Qu'est-ce qu'il lui avait fait pour qu'elle se conduise ainsi avec lui? Elle l'avait fait passer pour un monstre au cours de la soirée. Et pour quelle raison? Ça n'allait pas pouvoir durer encore longtemps, cette situation. Après tout, si personne ne voulait d'elle, elle n'avait qu'à retourner d'où elle prétendait venir, de Hongrie. Demain, il s'entretiendrait de nouveau avec les religieuses. Les choses devaient rentrer dans l'ordre. En quelque sorte, ce fut ce qu'il advint. Et j'espère que l'écoute de ce 11e épisode d'Herminiel vous aura plu. Si c'est le cas, je vous remercie de liker, de partager et de laisser un petit commentaire. Je vous retrouve dimanche prochain pour un nouvel épisode intitulé « Sale temps » au pluriel, où tout devrait se passer le plus merveilleusement du monde, comme d'habitude. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous enjoins d'écouter mon podcast relatif à Gloriane de Thémines par ChatGPT sur Contes et légendes non urbaines de Sévérac-le-Château. Prenez soin de vous. Au revoir.